Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La commission diocésaine Justice et Paix de Kikwit dénonce l'ampleur que prend les trafics d'enfants à travers la province de Bandundu. Elle dit avoir récupéré il y a quelques semaines une dizaine d'enfants au niveau de Kinshasa pour les ramener à Kikwit et les remettre à leurs parents. Cette affaire relance donc les débats sur l'exécution de la mesure d'interdiction de l'adoption internationale des enfants congolais. Où en est-on avec l'application de cette mesure? Et que faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes en République démocratique du Congo? Rejoignez-nous pour votre intervention en direct à l'adresse paa@radiokapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15. Merci à Pierre Lamegi pour la réalisation de ce programme mis en onde par Jean-Claude Nsiala sous la supervision de Nicole Ngaka et la coordination de J.R. Lungembo. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet paa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avant de retrouver Joseph Godet-Kayembe, président de la LISADEL, rendons-nous à présent à Kikwit pour nous entretenir avec Arsène Ngondo, qui est le président de la commission justice et paix de Kikwit, pour nous retracer un peu la réalité sur le terrain. Arsène Ngondo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous rappelons que vous êtes le président de la commission justice et paix de Kikwit, qui a dénoncé l'ampleur que prend les trafics d'enfants à travers la province de Bandundu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce phénomène est réellement, c'est vraiment une réalité dans la province?
Il est pour moi difficile pour l'instant de dire que c'est une réalité, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons, au début de cette année, été informés du trafic des enfants, trafic entre guillemets, c'est le départ de massif des enfants vers Kinshasa. Et nous avons été contactés par plusieurs parents qui ont commencé à chercher leurs enfants dont l'âge varie entre 3 et 10 ans. Et nous avons lancé un cri et nous avons été contactés les autorités, nous avons aidé ces parents qui étaient à la recherche de leurs enfants. Nous les avons aidés à rencontrer l'autorité locale. Et l'autorité locale a mis en marche tous ces différents services. Et ce qui est vrai, c'est que certains enfants ont été récupérés au niveau de Kinshasa et actuellement, c'est une dizaine qui sont revenus. Et en ce temps-là, parce que c'est déjà en milieu de l'année 2013, que certains enfants ont commencé à revenir avec l'aide de certaines structures. Se trouvant au niveau de Kinshasa et également avec l'aide de services urbains, l'ANR et l'appareil judiciaire de Kikwit. Voilà ce que je peux dire jusque-là et c'est sûr que certains parents continuent à rechercher leurs enfants et comment les récupérer au niveau de Kinshasa et à quel endroit ils se trouvent précisément parce que ceux qui sont allés n'ont pas pu localiser là où se trouvaient des enfants. Donc, on les ramenait des enfants pour dire, voilà, votre enfant est là. Mais ils ne savaient pas exactement où était logé l'enfant et où il était gardé. Et ça, nous, ça nous a fait craindre l'existence d'un réseau pour trafic des êtres humains.
Alors, avant de nous faire une idée sur le fonctionnement du réseau, de ce réseau de trafic d'enfants, en quoi vos propos, monsieur Arsène Ngondo, on a l'impression qu'on aura difficile à estimer l'ampleur que prend ce phénomène.
Non, on ne peut pas dire qu'on aura des difficultés, je ne pense pas, parce que nous avons documenté et nous avons même fait des photos aux parents qui sont venus chercher leurs enfants, à ceux qui sont revenus, ceux qui les recherchaient. Nous avons même les listes, nous avons gardé les listes. Et les services de sécurité urbain ont des listes parce que c'est eux aussi qui ont interrogé les parents. Donc on peut dire qu'on aura des difficultés pour repérer d'abord les parents et ensuite peut-être la difficulté c'est de retrouver le réseau. Et c'est pourquoi nous avons en ce temps-là et même maintenant lancé un cri vers l'autorité nationale.
Voilà, donc et avez-vous une idée sur le fonctionnement de ces réseaux? Comment ça fonctionne concrètement quand vous avez récupéré ces enfants?
Concrètement, on dit que ce sont certaines structures de Kinshasa qui viennent contacter certaines personnes au niveau de Kikwit, qui disent soit qu'ils ont un orphelinat, ils sont à la recherche des enfants, soit qu'ils ont des familles d'accueil au niveau de Kinshasa qui recherchent des enfants, et c'est comme ça que certains parents ont commencé à donner leurs enfants. Et c'est lorsque nous avons soulevé le fait et que certains parents se sont ressaisis, ils ont dit au fait il faut les aider à retrouver les enfants. Et les aider à retrouver les enfants, c'était qu'ils nous citaient le nom de personnes à qui ils avaient donné leurs enfants, et ces noms-là, ils les ont cités devant les services de sécurité, et les services de sécurité se sont actionnés pour interpeller ces personnes qui ont demandé à leurs correspondants au niveau de Kinshasa de retourner les enfants. Voilà un peu.
Merci beaucoup Arsène Gondo. Nous rappelons que vous êtes président de la commission justice et paix de Kikwit, de nous avoir fait une idée sur ce qui se passe concrètement par rapport à ce trafic d'enfants dans cette partie du pays, notamment le Bandundu. Merci beaucoup et à très bientôt.
Parole aux auditeurs.
Avant d'ouvrir le standard pour accorder la parole à nos auditeurs, nous prenons notre invité du jour, Joseph Godet Kayembe, qui est le président de la LISADEL. Joseph Godet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu en son temps également dénoncé ce phénomène. Aujourd'hui, j'ai posé la question tout à l'heure à notre invité et il nous a brossé la réalité sur les terrains. Vous, personnellement, vous pouvez estimer ce mouvement, ces phénomènes à hauteur de combien, si on peut évaluer cela en pourcentage?
Non, je ne peux pas vous dire le pourcentage, tout simplement. Nous recevons les plaintes de manière isolée. Des parents qui ont perdu leurs enfants et dont les dossiers se trouvent au niveau des juridictions. Le phénomène prend l'ampleur dans la mesure où dans toutes les communes il y a de plaintes. Donc on ne sait pas estimer combien d'enfants déjà sont vendus ou kidnappés. Mais je vois que le phénomène est en train de prendre l'ampleur. Ce qu'ils disent, ce qui vaut pour le Bandundu, mais aussi pour Kinshasa.
Voilà, on sait que la Direction Générale de Migration, DGM, avait en ce temps suspendu l'adoption internationale des enfants congolais par des étrangers pour une durée de 12 mois. La mesure a été prise au mois de septembre dernier et communiquée le même jour à une quinzaine d'ambassades installées en République démocratique du Congo. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous lançons le débat par rapport à cette ampleur que prend d'ailleurs ce phénomène sur l'application de cette mesure. Est-ce que vous avez une idée sur l'application aujourd'hui de cette mesure?
Oui, je suis, en dehors du fait que je suis le président de la LISADEL, je suis en même temps secrétaire exécutif permanent du Conseil national de l'enfant. Je travaille avec le ministère du genre sur cette question. C'est le ministère du genre qui est l'institution qui s'occupe, qui donne la validation et qui préside à la réunion du comité interministériel pour donner les fœtus pour les enfants qui doivent voyager. Et je sais qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à travers les structures, à travers les maisons qu'on a créées actuellement pour la fente d'enfants. Et à la suite de cette situation, le DGM a pris des mesures, et ça je les félicite, en prenant cette mesure de pouvoir suspendre le voyage des enfants. Il a permis à ce que les choses soient redéfinies correctement, et ça, c'est ce que nous voulions, que l'État prenne ses responsabilités lorsqu'il remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous avions aussi pensé que même la police devait aussi s'impliquer. Mais à ce que je sache, c'est que la mesure n'est pas encore levée, et jusqu'à présent, quelles que soient les conditions remplies par les enfants, le ministère du genre a pris la mesure d'application. Et ça reste jusqu'au moment où la DGM pourra lever la mesure. Pour l'instant, officiellement, il n'y a aucun enfant qui peut voyager, qui quitte la frontière congolaise.
Voilà, Joseph Godet a encore vos propos. C'est comme si cette mesure d'interdiction de l'adoption internationale des enfants congolais, c'est ce qui a permis, au fait, aujourd'hui, qu'on puisse avoir quelques pistes ou à tracer les mafieux ou tous ces membres de ce réseau de trafic d'enfants.
Les réseaux existent et existaient toujours. L'adoption, c'est un palliatif. L'adoption internationale, c'est un palliatif. C'est-à-dire que ces réseaux existaient, les gens, à l'extérieur, sollicitaient les enfants et passaient par les réseaux obscurs. Mais la loi congolaise permet que l'enfant soit adopté même à l'extérieur. La loi protégeant les enfants, parce que l'enfant peut trouver une famille qui peut le rendre heureux même à l'extérieur.
Oui, mais il faut que cela soit fait selon les normes.
De manière officielle.
Officielle, oui.
Ça soit fait de manière officielle. Il y a les institutions internationales de pays étrangers auprès de qui les familles qui ont besoin d'adopter des enfants s'adressent et à partir de l'étranger, ils mettent les démarches avec les organisations locales pour trouver les enfants qui peuvent être adoptés à l'extérieur. Et à ce moment-là, toutes les démarches sont faites au niveau du gouvernement et au niveau des organisations avec différentes conditions qu'ils ont posées. Dès que les conditions sont remplies, le ministère du Genre valide, ça passe aux affaires étrangères, ça passe à la DGM pour donner l'autorisation des sorties. Mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui, même avant, il y avait des réseaux qui vendaient des enfants, on ne sait pas pour quel intérêt. Mais je crois que c'est parce qu'il y a eu l'excès, il y a eu l'excès d'abus que au niveau de DGM, ils ont pensé qu'il faut mener des enquêtes à l'extérieur pour savoir ce que ces enfants qui sont partis avant, qu'est-ce qu'ils sont devenus avant que la mesure soit levée.
Voilà, il y a même, disons, le Forum international des femmes de l'espace francophone, FIFEF, qui avait dénoncé le 1er décembre dernier l'existence d'un réseau de trafic de jeunes filles entre la RDC et le Liban. Selon les responsables de cette ONG, ces jeunes filles sont recrutées à Kinshasa par une agence sous prétexte de leur offrir un travail décent au Liban. Voilà, donc il y a boire à manger dans tout ça. Il est temps pour nous, Monsieur Godet, d'ouvrir le standard et accorder la parole à nos auditeurs. Il y a Papy qui est à Kinshasa et Benoît à Kananga, tout en vous rappelant que vous pouvez également intervenir en direct en composant les 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Papy Kassema, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Papy Kassema, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. Nous avons parlé de cette commission diocésaine Justice et Paix de Kikwit qui venait de dénoncer l'ampleur que prend les trafics d'enfants à travers la province de Bandundu. Et pourtant, il y a, dans son temps, une mesure qui a été, une mesure d'interdiction de l'adoption internationale des enfants congolais. Alors, que faire aujourd'hui pour éradiquer définitivement ces phénomènes en RDC, selon vous, Papy?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole. L'honnêteté m'oblige d'abord de féliciter la commission justice et paix du diocèse de Kikwit, vraiment pour cet effort qu'ils ont conjugué. C'est une chose à féliciter. Et je crois que ce qu'ils ont fait vont interpeller les autres pour le faire aussi. Alors, le fait que les enfants sont marginalisés, sont traités de cette sorte-là, n'est pas du tout à féliciter, n'est pas du tout à encourager. Mais pour parler à ces problèmes, messieurs les journalistes, moi, je propose premièrement qu'il y ait la sensibilisation de la loi, la sensibilisation des bonnes vies et mœurs, surtout en ce qui concerne la loi portant la protection de la jeunesse, le code pénal, la loi sur les violations sexuelles, il y a encore les codes de la famille qui doivent être vraiment bien vigalisés, bien comprises par la population congolaise. Vous voyez que si on démantèle toutes ces histoires-là, messieurs les journalistes, c'est déplorable pour notre pays. Je doute fort que ces gens-là puissent faire ces choses-là plutôt sans complicité, sans assistance des Congolais proprement dit. Alors, à part la sensibilisation de cette loi-là, je souhaiterais aussi réformer le service d'immigration dans notre pays. Il faut revoir notre service d'immigration. Parce que ces gens-là, ces enfants-là ne voyagent pas par magie, mais c'est les journalistes. Ils voyagent par des voies normales. Donc, soit par voie routière, aérienne, ferroviaire ou lacustre. Alors, à part les services d'immigration qu'on doit réformer, il faut aussi réformer les services de sécurité, notamment les services de la police. La police est précisément la police des frontières. Mais c'est les journalistes, même si aujourd'hui on est tenté de dénoncer ces faits-là, peut-être ces enfants-là voyagent pour un certain nombre de pays européens ou américains, mais il peut arriver que certains mafieux puissent prendre certaines d'autres stratégies, par exemple, de faire passer ces enfants par voie terrestre. Par exemple, ici en Angola, il y a des Congolais qui partent en Angola par voie clandestine. Alors, c'est facile que ces mafieux-là puissent procéder par ce sens-là. Alors, pour terminer, je demanderai à notre invité, quelles sont les mesures qui sont prises par rapport à ces faits-là, surtout pour les enfants qui ont été déjà adoptés depuis longtemps. Parce que on a récemment remarqué cela, mais cela prouve déjà suffisamment qu'il y a certains enfants qui étaient déjà adoptés depuis longtemps et qui sont tentés d'être maltraités à l'étranger sans que les Congolais ne le savent. Alors, quelles sont les mesures que le gouvernement congolais a prises pour mettre fin à cette situation? Parce que ces enfants-là, ils n'ont pas même les moyens de communication là où ils se trouvent. Et nos ambassadeurs, donc nos ambassadeurs qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand quelqu'un arrive dans un pays autre que le sien, il faut que l'ambassadeur proprement parlé soit informé. Qu'est-ce qu'ils font pour dénoncer ces faits-là? Je vous remercie.
Merci beaucoup, papy, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons tout de suite Benoît qui est à Kananga. Benoît, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Vous avez la parole. Que faut-il faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes trafic d'enfants en RDC?
Merci pour la question qui est plus pertinente. Je vais répondre sur trois axes. D'abord, il faudrait que les parents puissent prendre les responsabilités et surtout qu'il y a certains parents de familles démunies qui donnent les enfants comme ça parce qu'ils ont l'envie d'envoyer les enfants à l'étranger sans tenir compte de tous les enjeux qui vont arriver à leurs enfants. De deux, l'État congolais ne maîtrise même pas les statistiques des enfants qui sont déjà partis. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État congolais peut nous dire combien d'enfants étaient déjà expédiés comme ça et ils sont où, ils ont quelle vie dans l'actuelle prise en charge par certaines organisations internationales?
Oui, papy, pour vous faire une idée, hein, par rapport aux statistiques fournies par la DGEM entre 2009 et 2013, hein, il s'agit donc de 1106 enfants congolais qui ont été adoptés par des ressortissants de 15 pays cités au fait dans les rapports de la DGEM, à savoir les États-Unis, la France, le Royaume de Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Canada, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, République Tchèque, Burkina Faso, Slovénie, Australie, Suède et Uruguay. Voilà donc ces enfants, soit une moyenne de 200 enfants par année qui sortent officiellement.
Et ça, ce sont les statistiques officielles. Mais il y a certains enfants qui quittent le pays sans être identifiés normalement.
D'une manière clandestine, donc par des réseaux mafieux, des réseaux de trafic d'enfants qui ne sont pas reconnus.
Effectivement, ici à Kananga, par exemple, parce que j'ai des cas concrets, j'ai dû à diriger les travaux pratiques des étudiants que j'encadre au collège de l'Université du Congo. Il y a eu le mois de janvier 2013, à peu près 24 disparitions d'enfants sur la ville de Kananga. Mmh. Et parmi ces enfants qui étaient déjà partis, on a récupéré plus ou moins 5 qui revenaient de Kinshasa et les autres qui revenaient du côté de Lubumbashi. Bon, les services de sécurité ne savent même pas maîtriser totalement la sortie des enfants dans les villes pour d'autres provinces. Mm-hmm. Donc il faudrait qu'on commence déjà à renforcer les mécanismes d'encadrement
des jeunes au niveau de,
à partir d'ici. On renforce la police des frontières et aussi les DGM ne puissent pas faire
permettre à ceux qui sont de sortir.
Mm-hmm. Parce que les DG des fois on arrive, on donne tout simplement 100 francs, 1000 francs, et c'est fini, on laisse passer les enfants, et ce n'est pas quand même normal. C'est une situation qui est vraiment du cœur pour les
voilà, parents. Voilà, donc vous souhaitez que les agents de la DGM et également ceux de services de sécurité puissent quand même user de leur savoir-faire, hein, et surtout d'appliquer l'éthique et la déontologie au lieu de s'en remettre au pot de vin, parfois pour un 500, et laisse passer certaines personnes qui s'adonnent donc à ces genres de trafic. Merci beaucoup Benoît d'avoir appelé de Kananga. Nous revenons ici à Kinshasa. Omar, vous êtes là. Bonjour Omar.
Bonjour Gérard Ngembo et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Alors que faire pour vous pour éradiquer définitivement ces phénomènes de trafic d'enfants en RDC?
Merci beaucoup, J.R., pour la parole. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous l'apprenons. Vous le savez, bien que moi, que l'enfant est un être vulnérable, vu son immaturité physique, mentale et intellectuelle. C'est le motif pour lequel il existe des textes nationaux, comme vous l'avez cité, et ceux internationaux qui les protègent. Je prendrai seulement pour passer rapidement l'article 162 de la loi sur la protection de l'enfant de 2009 qui dit que la traite ou la vente d'enfants sont formellement interdites. Et celui qui le fait est puni de 10 à 20 ans de servitude pénale et d'une amende. Ça veut simplement dire que l'État a voulu protéger l'enfant et a interdit toute forme de traitement qui pourrait nuire à sa santé. Mais malheureusement, comme nous le remarquons, ce phénomène a pris de l'ampleur comme s'il y avait des descendants de typo-typo. À mon avis, il y a deux causes principales qui motivent cela. Premièrement, c'est la négligence de la DGM. C'est le service chargé de la police des étrangers et des voyages. Aussi, il y a la pauvreté. Parce que si vous questionnez les parents qui font voyager leurs enfants, ils vous diront que c'est faute des moyens qui permettent à ce que les enfants partent, soi-disant, adoptés par d'autres pays, dans les orphelinats étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éradiquer? Parce que ce fléau trompe le paysage social congolais. Premièrement, je voudrais interpeller les services de la DGM pour dire que il faut faire. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de faire un tour à Brazzaville. Là-bas, à Brazzaville, avant que les enfants voyagent, il faut que le service appelle les consulats de l'autre pays. Donc on vérifie où est-ce qu'ils vont atterrir. Par exemple, la DGM est là, moi je vais faire voyager les enfants. Il faut que le service appelle notre ambassadeur de là pour vérifier dans quelles conditions ils arriveront, qui va les accueillir et qui fasse un acte d'engagement pouvant les assurer. Et pendant qu'ils vont arriver, qu'il y ait un point de contrôle pour voir s'ils sont bien avis et le faire. Et le seul service compétent pour le faire, M. J.R., c'est la DGM. Si la DGM devient responsable et sérieuse, je crois qu'on évitera de tels cas. Et aussi, pour finir, il y a un problème du social des Congolais. Si les parents congolais sont bien payés, ils sont bien nantis, je pense qu'on aura moins de cas. Parce que vous le savez, parmi les causes qui fassent que la criminalité grandisse dans une société, c'est aussi le manque de moyens. Je pense que si on fait les efforts dans ces deux paliers, notamment les contrôles efficaces par la DGM et aussi l'amélioration du social des Congolais, on aura, n'est-ce pas, éradiqué ces fléaux qui nous ronge et qui tronque le paysage social congolais. Merci beaucoup, Gilles.
Merci beaucoup, Omar. Là, vous avez situé la problématique, en tout cas à deux niveaux, au niveau de la négligence de la DGM, la Direction Générale de Migration, qui est censée, au fait, faire le contrôle, selon vos propos, en amont, ainsi qu'en aval, pour permettre à ce qu'il y ait de moins en moins ces réseaux de trafic d'enfants opérant en République démocratique du Congo, et aussi si les problèmes de la pauvreté, parce que ça c'est les conditions dans lesquelles vivent les populations, voilà, ça le pousse au fait à s'adonner à ce genre de trafic, parce que ils cherchent le mieux-être, ou pourquoi pas se mettre à l'abri du manque. Merci beaucoup, hein, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Joseph, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonne journée.
Et bonne journée à vous aussi et à tous ceux qui nous suivent à Kindu. Vous avez la parole, Joseph.
Oui, moi j'ai une petite question à poser. Moi j'aimerais savoir qui organise ce trafic d'enfants. De deux, les enfants de quel âge qui sont utilisés à ce trafic? Et pourquoi organiser ce trafic d'enfants? C'est par manque de moyens ou manque de pauvreté? C'est ça ma simple question que je voulais savoir à l'invité. Je voulais demander.
Voilà, l'invité reviendra avec force détail, mais notez que par rapport aux informations en notre possession, hein, des enfants dont l'âge varie entre 1 et 10 ans ont été récupérés à Kinshasa et ramenés au niveau des Kikwit dans le Bandundu. Et ils ont été remis à leurs parents. Donc voilà, donc notre invité reviendra sur ça à long et à large. 081-890-6315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Okapi. José Godet Kayembe, vous êtes le président de la LISADEL, vous avez suivi cette série des auditeurs. Vous avez la parole pour orienter les préoccupations des uns et des autres.
D'abord, je remercie tous les intervenants. Je voulais d'abord informer les auditeurs. Et la protection de l'enfant concerne tout le monde. Tout le monde a l'obligation de protéger les enfants. Quand vous êtes, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un a un enfant sur la route, on le suspecte. La personne qui le voit signale immédiatement la police pour qu'il puisse interpeller les internés pour savoir si c'est son enfant ou qu'est-ce qu'il veut faire avec l'enfant. Mais ici, tout le monde regarde, on regarde l'État. L'État, c'est tout le monde. Donc si le DGM, c'est quelques personnes qui sont formées pour s'occuper de l'octroi des autorisations. Mais prendre l'enfant de Bandundu, l'amener à Kinshasa, sur la route il y a des barrières, sur la route il y a des policiers, mais personne ne s'occupe de ça. Donc le plus important, c'est de responsabiliser la communauté, responsabiliser la police, responsabiliser tout le monde. Parce que la protection de l'enfant relève de tout le monde. C'est pas seulement les gestions publiques qui doivent procéder, que les gestions publiques aient ratifié la convention. Il est lié. Mais nous, toute la population, nous avons l'obligation de protéger les enfants. Lorsque vous remarquez que quelqu'un a un enfant de manière suspecte, vous devez vous intéresser, poser la question. C'est quoi? Demandez à la police de l'interpeller. Deuxièmement, il faut que quand l'enfant doit quitter une province ou une autre, il faut qu'il y ait quand même une autorisation au niveau de la province. Et ça doit exister. Mais qu'est-ce que les autorités de la commune ou du territoire ou de la province font pour que l'enfant bénéficie de la protection? Et même les organisations des droits de l'homme, même les organisations, même n'importe qui, a l'obligation de le faire. L'État congolais, quand on parle de l'adoption internationale, ce n'est pas seulement le problème du Congo, c'est le problème du monde entier. L'enfant peut être dans une famille, il n'est pas à l'aise, il peut trouver d'autres parents qui peuvent l'adopter, l'élever et avancer. Et vous suivez, même en Europe, il y a même des blancs qui sont adoptés par d'autres familles. Ça existe, c'est pas un phénomène nouveau. Mais seulement, le problème chez nous, ce sont les abus. Les gens, quand on leur apprennent que telle famille peut vous donner 20 000 dollars pour avoir un enfant, parce que cette famille-là, peut-être qu'il n'a pas d'information chez lui, parce qu'il a des difficultés pour avoir des enfants, de manière frauduleuse, il va envoyer l'enfant d'autrui. Mais l'État devrait les appréhender. Si ça n'a pas marché, si ce que nous avons remarqué, quand quelqu'un a parlé ici, il dit qu'on peut prendre l'enfant par la route, on peut avoir en Angola. En Angola, c'est organisé. Tu ne peux pas embarquer un enfant dans l'avion sans qu'on sache son origine. Il y a la complicité. C'est pourquoi nous disons qu'il y a le réseau. Il y a le réseau, il y a la complicité
Oui, monsieur Joseph, vous donnez quand même raison à notre auditeur, Omar, qui a parlé, qui a situé la problématique, en tout cas à deux niveaux, au niveau de la négligence de la DGM et aussi de la pauvreté.
La DGM a la responsabilité totale par rapport à cette question. Parce que l'enfant ne peut pas passer les frontières quand ça qu'il ne signait pas l'autorisation des officiels. Ça, c'est un. La pauvreté des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants, mais qui ne savent pas le prendre en charge, parce qu'ils sont en difficulté. Ils cherchent qui peut le prendre à n'importe quelle opportunité qui se présente, ils essayent de s'en débarrasser. Et ça, on le fait. Mais il y a des enfants aussi qui sont enlevés dans les écoles. Il y a aussi des enfants qui sont volés par le voisin pour aller le vendre dans une maison, dans un orphelinat, où cet orphelinat a des contacts avec des partenaires qui lui proposent de l'argent pour ça. Alors, mais il faut que pour que cet enfant sorte, il faut qu'il y ait des mesures appropriées. Il faut que l'État prenne des mesures appropriées par rapport au déplacement des enfants. C'est-à-dire que la DGM ne peut pas accorder l'autorisation de sortir des enfants tant qu'il n'a pas des documents au préalable qui viennent de la commune, qui viennent de l'endroit où vit l'enfant. Et en même temps, au niveau, si nous disons qu'il y a la complicité, c'est parce que, au niveau, déjà, de la commune, au niveau des différentes disons, circuits où les dossiers d'enfants doivent passer, il doit peut-être, la personne qui garde les enfants dans un orphelinat, qui doit les offrir quelque part, s'organise pour avoir tous les documents officiels pour que l'enfant sorte. Considérez, ça je jure, je suis convaincu qu'aucun enfant ne peut être embarqué dans un avion sans qu'il y ait les documents officiels des officiels. S'il y a le réseau, les officiels sont impliqués. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, qu'est-ce que ces réseaux qui l'animent et qui sont derrière ces réseaux pour que les enfants d'autrui qui sont enlevés sortent du pays sans autorisation.
Oui, ben, oui, Joseph a posé cette question là, Joseph de Kindou, qui parlait tout à l'heure par rapport à sa question. Qu'est-ce qui organise ça? Est-ce que vous, en tant que société civile, vous avez quand même eu le temps de vérifier et de vous faire une idée sur ces réseaux?
Voilà pourquoi l'État, en tant que responsable, a suspendu toutes les autorisations pour savoir l'état de la situation des enfants qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et aussi pour identifier ou repérer les réseaux mafieux qui s'organisent pour sortir les enfants. Là, il faut attendre jusqu'à la fin de l'année, quel sera le résultat de la DGM avant que d'autres mesures soient prises.
Voilà, parce que là, comme nous le savons, Bandundu, c'est un cas de figure, mais j'imagine que ce n'est pas l'unique et le seul cas à travers le pays.
C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent avec les enfants, s'ils savent ça, si les enfants sont retournés dans Bandundu, ceux qui étaient au Katanga sont retournés au Kassai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su sortir avec eux. Ça, il faut féliciter les jeunes. Ils n'ont pas su sortir embarrassés, ils abandonnent. Ils croyaient que c'était une œuvre facile. Mais quand ils ont commencé à s'embarquer dans cette aventure, ils ont trouvé des obstacles pour sortir avec les enfants.
Alors vous pensez que y a quand même des préalables pour qu'on arrive à éradiquer définitivement ces phénomènes en RDC?
Éradiquer le phénomène, c'est impliquer toutes les autorités, impliquer les institutions publiques, impliquer la communauté, pour que chacun, à son niveau, joue son rôle, afin de mettre fin à cette pratique.
Voilà, on reviendra sur les sanctions accordées aux membres, disons, de ce réseau, là où on a pu récupérer quand même, pour les cas de Bandundu, ces enfants qu'on a dû ramener à Kikwit et les enfants qui ont été remis à leurs parents. Nous repassons à nouveau au niveau des standards avec Mbanza qui est à Likasi. Mbanza, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur JR.
Vous avez la parole, Mbanza.
C'est Fornicar Mbanza à Likasi. Par rapport à l'éradication de ce phénomène-là, moi je pense que nécessairement l'État à travers le service de DGM doit nécessairement œuvrer grandement un service parce que vous savez, parce qu'il y en a déjà des auditeurs qui ont soulevé le problème de la pauvreté des parents. Moi je pense que la pauvreté peut être aussi une cause. Alors sur ce, je souhaiterais à ce que nos parlementaires élaborent un peu une loi qui pouvait nécessairement limiter le nombre d'enfants par ménage. Pourquoi? Parce que les familles pauvres qui ont au moins toute une chaîne d'enfants là, vous allez voir que la manière de gérer ces enfants là n'est pas facile. Alors, ce qui peut faire à ce que ces enfants quitte la maison et que ses parents sollicitent d'autres mains à l'extérieur pour encadrer ses enfants. Je pense que c'est mieux que l'État limite un peu le nombre d'enfants par ménage. D'après moi, je proposerais à ce que ça soit même à deux par ménage. Je pense qu'on peut trouver une solution. Mais sur ce, à part ça encore, je pense que l'État, à travers les services de DGM, peut créer encore une structure informelle qui peut se renseigner, qui peut avoir des précisions sur les enfants qui partent là-bas. Quelle est la vie de ces enfants à l'extérieur? Comment est-ce qu'ils vivent? Il y a aussi des ambassadeurs qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur si ce n'est pas se renseigner par rapport aux enfants venant de leur pays d'origine. Je pense que j'avais à proposer par rapport à ce sujet.
Voilà, alors merci, nous retenons deux choses, hein, Banza. Pour vous, tout passe par la détermination du nombre d'enfants par ménage. Ça pourrait quand même aider tant soit peu, parce que les parents pauvres qui se retrouvent avec plusieurs enfants, alors ils n'ont que comme un bon débarras. Donc pour eux, c'est vraiment un bon débarras quand ils sont en contact avec ces réseaux mafieux qui travaillent dans les trafics d'enfants. Voilà, donc vous souhaiterez qu'il y ait quand même une rigueur soit mise de ce côté-là pour qu'on détermine réellement le nombre d'enfants par ménage. Est-ce que les autres auditeurs partagent ces points de vue pour finalement arriver à éradiquer définitivement ce phénomène en RDC? Pierre, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Pierre.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bon, moi, je voulais premièrement savoir, les enfants là proviennent vraiment d'où? Est-ce que quelqu'un peut mettre au monde un enfant avec son papa et sa maman et jeter son enfant là comme ça? Moi, je me demandais d'où proviennent vraiment ces enfants-là. Ça, c'était ma première question. Vous savez que quand on a le consentement de mettre au monde, donc on aime son enfant. Maintenant, comment expliquer que quelqu'un qui a l'amour maternel, il met au monde son enfant, après un moment, il va jeter son enfant là, tel que vous le dites là?
Oui, alors, mais, oui, Pierre, oui, Pierre, oui, monsieur Pierre Omar a parlé tout à l'heure de la pauvreté. Voilà, des parents qui sont, en tout cas, qui vivent dans une pauvreté ou dans une précarité très prononcée, n'hésitent pas de se livrer, en tout cas, là, merci de tous ces réseaux mafieux.
Moi, je me demandais, mais si vous voyez que vous êtes pauvre, mieux vaut laisser même en mettre au monde, parce que ça, c'est surcharger seulement l'État pour dire que l'État ne garde pas les enfants. Vous mettez au monde le matin, le soir, mais après un moment, vous abandonnez ces enfants-là. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que l'État organise une organisation de façon que, quand on met au monde un enfant, que l'État enregistre le nom de cet enfant-là. Après un moment, si on voit que non, il y a le désordre quelque part, l'État arrête ces parents-là.
Alors, il y a d'autres qui ont parlé aussi de la négligence de la Direction Générale des Migrations, hein, qui, au fait, par inadvertance ou je ne sais pas moi, par maladresse, laisse aussi passer ces enfants qui, au fait, sont amenés, déportés au niveau de l'Occident ou encore des Amériques.
En effet, c'est ça, monsieur le journaliste.
Donc, vous partagez cet avis?
Oui, moi aussi je compte, je parle de ça, c'est aussi de la négligence.
C'est de la négligence. Voilà, merci beaucoup hein, Pierre d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons Vunda qui est en Bujimaï. Vunda, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, je voulais intervenir comme ça.
Oui, vous avez la parole, allez-y.
Oui, j'ai dit, vous m'écoutez?
Allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, d'abord il faut partager l'adoption du trafic. Si l'État parvient à interdire l'adoption, tout comme on dit, à chaque action correspond une réaction. Si l'État interdit l'adoption internationale, il y aura alors une réaction qui correspond, c'est l'augmentation du trafic. Et quand on parle du trafic, on voit déjà la mafia. Alors, ici en Mbujimayi, on a détecté plus de trois fois les réseaux de mafieux ici en Mbujimayi. Et les autorités le savent bien. Ces gens-là parviennent à obtenir ces enfants par les opérations de kidnapping, les enlèvements dans les rues, au niveau des écoles et tout ça. C'est pourquoi moi je voulais interpeller l'État congolais, notamment le ministère de l'Intérieur et celui du genre. Ils doivent faire de tout leur mieux pour organiser les choses et parvenir à démanteler tous les réseaux de mafieux au niveau du pays. C'est ça leur rôle, c'est tout. Il faut nécessairement démanteler tous les réseaux et les punir, donc mettre fin aux opérations de kidnapping.
Merci beaucoup Vunda d'avoir appelé de Mbujimayi. On va voir du côté de l'autre côté de Kananga si c'est pratiquement la même réalité. Adrien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR.
Vous avez la parole Adrien. Que faut-il faire pour éradiquer définitivement le phénomène trafic d'enfants en RDC?
Oui, merci JR. Je pense que la ville de Kananga, à un certain moment, elle était aussi victime de ce genre-là de pratiques barbares. Mais lorsque on a levé les dons, l'exécutif provincial a essayé un peu de se pencher, il y a eu une accalmie, mais JRC Cumétique, c'est vraiment un réseau très bien organisé, et puis en voyant comment est-ce que ce réseau-là opère ici au Kasaï occidental, il n'y a pas vraiment à stigmatiser qui que ce soit, mais si ce n'est que nous impliquer tous, et surtout les renforcements de la justice, parce que c'est seule la justice qui peut vraiment mettre hors état de nuire tous ces malfaiteurs, parce que ici à Kananga, comment ça s'est fait, ces gens-là s'organisent dans des écoles. Hein, ils sont parqués là. Lorsque les enfants sortent des écoles, on les prend, on les met dans des jeeps, dans des motos, on les amène. Et là, franchement, c'est difficile. Hein, c'est difficile pour qu'on puisse doigter du doigt qui que ce soit, de la DGM, de l'ANR. Donc, il n'en est pas question pour l'opération ici à Kananga. Mais néanmoins, là où je suis d'accord avec certains moyens efficaces, c'est un peu du côté parent d'être vigilant. Hein, parce que lorsque nous voyons, même présentement, pendant que je suis en train de causer sur votre antenne, je vois des enfants de moins de 6 ans en train de s'amener seuls à l'école. Donc, comme ça, avec cette négligence, pour les kidnapper, ça ne sera pas du tout difficile, c'est très facile. C'est pour cela que les parents vraiment doivent surveiller leurs enfants, parce qu'ici, c'est plus les écoles qu'on est en train d'utiliser, donc prendre ces enfants. Donc, je pense, en bref, le renforcement de la justice est l'unique moyen efficace pour lutter, parce que lorsque on pourra condamner sévèrement ces gens-là, ça sera vraiment une leçon pour les autres qui pourront s'y tenter l'aventure.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Joseph Godet Kayembe. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Comment réagissez-vous? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'implication de toute la communauté. Il y a, notre dernier auditeur qui a ajouté un autre aspect, la justice, le renforcement de la justice, aider tant soit peu à pouvoir réellement éradiquer ces phénomènes en RDC. Allô, Joseph? Oui, Godet Kayembe, vous êtes avec nous? Voilà, les temps de revenir encore. On va remettre en ligne notre invité. On va prendre Déborah. Déborah qui est avec nous. Déborah, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour, Déborah.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. La commission diocésaine Justice et Paix de Kikwit dénonce l'ampleur que prend les trafics d'enfants à travers la province de Bandundu. Elle dit avoir récupéré il y a quelques semaines une dizaine d'enfants au niveau de Kinshasa pour les ramener à Kikwit et les remettre à leurs parents. Alors, nous avons relancé les débats sur l'exécution de la mesure d'interdiction de l'adoption internationale des enfants congolais. Où en est-on avec l'application de cette mesure et que faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes en RDC? Alors, vous proposez quel schéma?
Oui, selon moi, c'est que je dirais le gouvernement congolais qu'ils prennent conscience, parce que ces enfants-là seront dans l'avenir, ce sont ceux qui vont gérer la société. Donc, la RDC doit mettre en aide, donc, qu'ils fassent un peu des écoles pour ces enfants-là qu'ils étudient, au moins qu'ils ne payent pas. Et dans les avenirs, qu'on puisse faire aussi des universités. Parce que quand ils vont commencer à étudier, et ils seront des gens dans la société. Au lieu de prendre les enfants pour aller leur vendre et pour remettre encore à leur famille, c'est pas normal. Moi, je comprends même pas ce qui est en train de se passer en RDC. Où est le gouvernement vraiment? Qu'il se prend vraiment, que la justice puisse faire
son travail. Que la justice fasse son travail. Merci beaucoup,
oui,
Déborah.
La justice fait son travail, vraiment.
Merci
c'est
beaucoup.
C'est pas normal ce qui est en train de se passer.
Merci beaucoup, Déborah. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes des Radio Capi.
Oui, merci beaucoup, J.R.
Vous avez suivi vos prédécesseurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer définitivement ces phénomènes trafic d'enfants en RDC?
Merci, Gérard, pour cette thématique. Eh bien, Gérard, vous savez, nous avons souvent l'habitude de nous attaquer aux conséquences. Alors que, par moment, il faut d'abord réfléchir sur les causes. Moi, je pense que comme l'a dit Omar, les causes que moi j'estime être principales, c'est la précarité, la pauvreté dans laquelle baignent la plupart des Congolais. Gère, je vous dis que, vous savez, par exemple, pour scolariser seulement les enfants actuellement, à l'école primaire, pour ne pas dire, à partir de l'école maternelle, c'est un véritable casse-tête. Alors, les parents, que voulez-vous? Un parent qui travaille. Un parent qui travaille responsable, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là, il ne faut pas que les gens mettent beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours estimé les gens qui recourent à cette solution de la limitation des naissances, ce sont des gouvernements faibles qui n'arrivent pas à nourrir leurs sujets. Et moi, je pense que il faudra que les services compétents puissent aller en profondeur avec ce phénomène. Parce que ce phénomène a un caractère tout à fait social. Les parents sont démunis. Quelqu'un se présente. Les parents, dans la tête, il n'a pas encore l'idée de vendre son enfant. Pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, finalement, cet enfant vive mieux? Eh bien, un réseau se présente pour lui dire, voilà, il y a telle structure qui peut le prendre en charge et par la suite, vous serez dépanné sur le suite. Et moyennant quelques c'est pas moi, espèces sonantes, oui. Voilà, ses parents qui est dans la pauvreté, dans la précarité, cèdent. Donc, je crois que la solution, c'est quoi, Gère? Il faut que les gouvernants prennent conscience que celui qui travaille doit être en mesure de nourrir sa famille. Comment vous pouvez expliquer? Moi, je suis venu une fois sur votre radio ici, j'étais vraiment stomaqué. Les exemples sont légion. Quelqu'un qui a des arrêts, qui totalise 75 mois de paiement. Lorsqu'on fait un peu de calcul, ça c'est pour le cas de la SNCC. 75 mois d'impayement GR. Lorsque vous divisez par 12, ça fait presque 6 ans.
3 ans, 4, 5 ans.
6 ans, GR. Et à la place du cœur, qu'est-ce que les gouvernements de ces pays ont? La pierre. 6 ans, vous maintenez un parent, un père de famille pendant 6 ans sans être payé.
Et devant ces réseaux, un tel réseau, il ne pourrait que céder. Hein.
Non, oui, bien sûr, Gérard, bien sûr. Hein, parce que regardez, les cas sont légion. Il y a des gens, des familles qui vivent dans des conditions. Regardez par exemple pour le cas de la SCPT. Vous savez que la SCPT comme la SNCC, l'argent est là. L'argent est là, logé dans un compte. Mais les gouvernants, les ministres, la primature, ils refusent de payer au motif que pour rembourser la dette chinoise. Mais mon cher ami, moi on me paye 100 dollars. Et pardon, 20 dollars. Je dois à quelqu'un 100 dollars. Alors, moi, je dois prendre les 20 dollars qu'on me paye chaque fin du mois pour éteindre cette dette-là, aller payer tout le temps. Mais je veux rester avec quoi? Je crois que c'est pas comme ça. Les Chinois ont besoin d'être remboursés, mais les travailleurs aussi, les personnes, ont besoin de vivre.
Tout à fait.
Donc, je crois qu'il faut une solution globale. Mais les tenants du pouvoir doivent avoir à la place. Il faut avoir un cœur pour payer suffisamment.
Voilà, Mango, vous avez parlé de la
charge leurs enfants.
Vous avez parlé de la précarité de la population dans laquelle vit la population, mais il y a un autre aspect de la chose, c'est la négligence de services habilités à faire les contrôles en amont tout comme en aval, pour protéger
vous savez comment ça fonctionne, ce sont aussi des gens qui sont dans la même moule, ce sont des fonctionnaires, ils gagnent combien? Ce phénomène date pas d'aujourd'hui, Gérard. Ça date de longtemps. Il y a des enfants qui sont envoyés tout le temps comme ça en Europe en quête de survie. Ça date pas de maintenant.
Donc vous êtes pessimiste, vous pensez que c'est difficile de pouvoir éradiquer ces phénomènes en RDC?
Tant que on ne va pas améliorer les conditions sociales des Congolais, ça sera, mon cher, un vœu.
Ça sera toujours un bon débarras pour certains parents qui n'ont pas de moyens.
Difficile à éradiquer.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons Idriss qui est à Kamina. Idriss, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, Idriss.
Oui, je vous appelle depuis Kamina. J'aimerais vous dire que le gouvernement congolais est en train de négliger son rôle. Quant à moi, je propose que il faut qu'on puisse commencer à décourager ces gens-là qui font des trafics des enfants. Par exemple, comme ici à Kamina, c'était en 2011 comme ça, il y avait une maman à Katahane qui vendait son enfant en 2000 dollars, mais elle a été découragée par les autorités de la place. Mais comme moi, je propose que le gouvernement puisse renforcer un peu la capacité de la DGM, chercher un peu des spécialistes, pour qu'on puisse pas encore entendre cela niveau international, sachant aussi partout aussi des compétences plutôt du gouvernement. C'est ce que je pense, c'est tout. Merci, JR.
Merci beaucoup, Idriss. 081-890-6315, c'est pour votre intervention en direct à chaque fois que nous vous proposons des thématiques.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Joseph Godet Kayembe, vous êtes président de la LISADEL. Vous êtes notre invité depuis le début de cette émission. Vous êtes en ligne. À nouveau, vous avez suivi cette dernière série des auditeurs. Alors, d'entrée de jeu, comment vous réagissez?
Je crois que tous les intervenants ont raison. Tout simplement parce que l'État congolais ne joue pas son rôle. C'est depuis longtemps que nous avons le phénomène des enfants de la rue. Et j'ai toujours dit que ce phénomène est venu avec cette affaire de politique d'ajustement structurel de la Banque mondiale et de l'FMI. Et j'ai toujours été contre la coopération entre le Congo, la Banque mondiale et l'FMI parce que ce sont eux qui sont responsables de notre misère. En tant que défenseur des droits de l'homme, je pense que s'il m'est donné de mon point de vue, je dirais au gouvernement de mettre fin. Parce que du moment où ils nous ont demander à M. Mobutu de mettre fin à la prise en charge de l'éducation et de la santé, la situation s'est dégradée et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, ils ont reconnu leur faute, mais ils n'ont pas dédommagé le Congo, malheureusement. Et puis, le Congo doit continuer à pouvoir collaborer avec eux. Alors, ce que moi je pense pour l'instant, c'est que par rapport à la préoccupation de notre ami, lorsqu'il dit qu'il faut limiter les naissances, il n'a pas raison, parce que le pays qui a plus une grande population se développe. L'un des facteurs de développement, c'est la population. On ne peut pas dire à la population congolaise qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés de réduire ou bien de limiter les naissances, ça n'a pas de sens. Bon, deuxièmement, comme nous l'avons dit, il faut que l'État joue son rôle, comme notre ami l'a dit. L'État doit jouer son rôle en donnant plus de possibilités, en développant la politique économique qui permet aux compatriotes de se retrouver. Mais malheureusement, la plupart des fois, ils discutent avec les gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que le Congo change, notamment la Banque mondiale de FMI, et qui imposent au Congo les conditions qui ne lui permettent pas de se développer. Comment voulez-vous un pays comme le Congo que nous ayons un budget de 7 milliards pendant que l'Angola, qui n'a que 5 millions d'habitants, a 53 milliards de dollars? Qu'est-ce que l'Angola a que le Congo n'a pas?
Voilà, je crois que Joseph, là c'est un débat qui est lié autour de la production. Oui. Si en Angola la production se retrouve à un rythme normal, mais chez nous, vous connaissez quand même les difficultés que nous traversons depuis 2001, 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas un secret. Pour qu'on y revienne chaque fois, il y a quand même des efforts chaque année. Il y a un peu d'augmentation, il y a un accroissement. Hein, le budget accuse quand même un taux d'accroissement. Si c'est un peu faible, mais du moins il y a quand même un taux d'accroissement.
Si vous appelez ça accroissement, je regrette parce que aujourd'hui dans ce pays, il y a des individus qui sont plus riches que l'État. Ça, vous le savez?
Voilà.
C'est pas du secret. Oui. Mais notamment, je reviens sur la question, j'ai dit que si on améliore le quotidien du Congolais, je crois qu'on n'arriverait pas à tout ça. Mais néanmoins, le phénomène d'adoption est un phénomène international. Le Congo exporte moins d'enfants que d'autres pays du monde. Donc il y a, si vous regardez les statistiques, le Congo a fait adopter moins d'enfants que les autres pays africains et américains. Mais ce que nous déplorons, c'est les réseaux parallèles, les réseaux informels. Si l'enfant passe de manière officielle, l'enfant passe de manière officielle dans un réseau officiel, comme avec les autorisations, avec les organisations, je crois qu'il y a lieu de suivre l'évolution de l'enfant à l'extérieur.
Est-ce qu'il y a
des... Quand l'enfant passe par le voie
non formule, à ce moment-là, on ne sait pas si c'est la vente, on ne sait pas si c'est une exploitation. Là, c'est difficile. Alors voilà pourquoi, si l'État doit mener le combat, il doit combattre les réseaux. Il doit pouvoir favoriser. D'ailleurs, si les enfants sont adoptés, c'est pour l'intérêt du Congo. S'ils sont adoptés à l'extérieur, pour être élevés dans une famille nantie, c'est pour l'intérêt du Congo. Quand il va grandir, même américain, même français, cet enfant passera toujours au Congo. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est la vente d'enfants. C'est la traite d'enfants. Lorsque ça passe dans les circuits non formels.
Voilà, Joseph Godet Kayembe, nous rappelons que vous êtes le président de la Lisadel. Oui. Merci d'avoir été notre invité et à très bientôt.
Merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Claude Ntiala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Pierre Lamegi l'a réalisé. Et Gilles Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. La République centrafricaine a une nouvelle présidente de la transition. Catherine Samba Panza, ancienne maire de Bangui, a été élue lundi 20 janvier au Conseil national de transition, le Parlement centrafricain. Elle est la troisième femme africaine a accédé à la magistrature suprême. Son élection intervient trois jours après la démission de Michel Djotodia et son élection peut, selon certains observateurs, constituer un espoir pour la stabilisation de la situation sécuritaire dans son pays. Et en même temps, ses choix relancent en RDC les débats sur les leaderships féminins en politique. Que vous inspire l'élection de Catherine Samba Panza à la tête de la RCA? Quel pourrait être son impact sur le leadership féminin en RDC? Nous en parlons demain. Enregistrez-vous déjà. À très bientôt.